Bonsoir Riyad Satouf. Nous sommes très heureux, la librairie Mola, l'équipe bande dessinée, de vous accueillir ici à Bordeaux, à la station Ozone. Nous allons parler de la nouveauté qui vient d'arriver, l'Arabe du futur 4, chez Alary Édition. Et nous allons présenter aussi toute votre œuvre qui a mené à l'édition de l'Arabe du futur. Alors, tout d'abord, le tome 4 qui vient de sortir, vous avez mis 2 ans à le faire, 2 fois plus épais, grosse pression des lecteurs. J'ai envie de savoir.
Non, ils sont sympas. Non.
Comment allez-vous, Riyad Satouf, et comment avez-vous géré cette pression?
Dans le cas de l'Arabe du futur, c'est une histoire que je sais où ça se termine. Donc j'avais déjà tout découpé, donc je sais par où je vais passer pour aller jusqu'à la fin. Alors c'est vrai que celui-là est plus long que les autres parce qu'il s'est présenté comme ça. C'est un petit peu comme des enfants, en fait, on ne sait pas trop celui qui va naître, la tête qu'il va avoir. Et donc celui-là est né avec 300 pages. J'ai pas voulu le couper en deux, je l'ai laissé comme ça parce que je me disais que, en fait, à la fin de ce volume, il y a le secret familial dont je n'avais jamais parlé, qui était la raison d'être aussi de la série de l'Arabe du futur. C'était pour arriver à ce moment-là qu'il fallait que je raconte. Donc j'ai mal commencé ma phrase. C'était pour arriver à ce moment-là que j'ai commencé à faire cette série. Et il m'a fallu 3 volumes pour prendre mon élan et avoir la vitesse suffisante pour pouvoir le raconter.
Tome 5, 600 pages.
Non, peut-être pas. Non, quand même, je ne sais pas encore.
Alors, on va revenir à vos débuts. En 2000, vous sortez votre première bande dessinée aux éditions Delcourt, Petit Verglas. Vous avez 22 ans. Vous sortez d'une école de Beaux-Arts, les Beaux-Arts de Rennes et les Gobelins à Paris. Et vous êtes dessinateur. Vous êtes accompagné d'un scénariste assez connu ici, qui va venir d'ailleurs à la librairie Mola, qui s'appelle Éric Corbeyran. Et nous aurions voulu savoir comment s'est passée cette rencontre. Comment avez-vous décroché ce contrat qui vous a lancé dans le milieu de l'édition?
Eh bien, quand j'étais étudiant en art appliqué à Nantes, je commençais déjà à démarcher les éditeurs de bande dessinée. Je leur envoyais des pages toutes les semaines. Avec des projets, je faisais des scénarios, etc. Parce que je voulais vraiment devenir auteur de BD. Et ça m'obsédait, c'était quelque chose de... Alors attention, je vais vérifier les trucs qu'on va diffuser, parce que j'ai horreur qu'on diffuse des images derrière moi, excusez-moi. Donc je vais pas... Non, ça c'est moche, attendez. Ouais, mais attendez, voilà, on va faire ça. Et j'ai horreur des trucs projetés derrière, parce que les gens regardent au-dessus de moi et ça me rappelle que je suis petit. Donc ça me donc voilà, j'envoyais des projets aux éditeurs et j'avais que des lettres de refus tout le temps, des lettres type, mais je me disais que si j'en envoyais 100, il était impossible d'avoir 100 réponses négatives, parce que la nature n'aime pas l'échec total. Enfin, c'est ce que je me disais, il y aurait forcément un qui finirait par accepter. Et un jour, j'ai participé à un concours de bande dessinée dans une librairie nantaise. Et le président du jury, qui était un dessinateur de BD qui s'appelle Olivier Vatine, m'avait donné un prix. J'avais gagné le prix. C'est la première fois de ma vie que j'ai gagné un prix. Et avait montré mes dessins à l'éditeur Guy Delcourt, qui les avait bien aimés, m'avait contacté, m'avait mis en contact. Justement, m'avait proposé de travailler, de faire des pages d'essai sur un scénario qu'avait écrit Éric Corbeyran. Et donc, j'ai accepté tout de suite, parce que pour moi, c'était le... C'était la manière d'entrer dans le monde, rêver des livres, etc. Mais alors, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais plusieurs styles de dessin. J'avais un style plus personnel, qui était le style de dessin que j'ai dans l'Arabe du futur. Mais il n'intéressait pas du tout les éditeurs, parce qu'eux, ils voulaient quelque chose de plus comme ça, justement, un peu dessiné avec des... Voilà, comme ça un peu. Voilà, ça c'est moi qui ai fait ce genre de dessin. Et en fait, moi je voulais pas dessiner comme ça, mais c'était plus commercial, disons, pour les éditeurs. Donc j'ai dessiné comme ça, je me suis soumis à ce qu'on me demandait. Et j'ai continué dans le même temps à envoyer des projets aux éditeurs jusqu'à temps qu'il y en ait un qui finisse par m'accepter en tant que scénariste et dessinateur, parce que sur celui-là j'étais uniquement dessinateur. Et moi, j'estime que ma première BD, c'est Les Jolis Pieds de Florence, mais il n'y a pas la couve. Ah bah bravo, Guillaume. Voilà, c'est le premier livre que j'ai fait parce que je l'ai écrit et je l'ai dessiné. C'est vrai que quand j'ai commencé, c'était très compliqué pour un auteur de BD déjà de se présenter comme un mec qui fait tout. Voilà, je crois que les éditeurs aimaient bien séparer les rôles pour mieux contrôler les projets, en fait. Et donc, ils encourageaient un petit peu les scissions. Et quand un auteur venait et se présentait comme auteur complet, on lui refusait ses projets. Donc, moi, on m'a très souvent refusé mes projets.
D'ailleurs, c'est l'une des seules bandes dessinées où vous êtes accompagné d'un scénariste.
Bah oui, parce que c'était la première, c'est vrai. Après, j'ai arrêté parce que je suis trop indépendant, peut-être. Je veux faire mes propres trucs, raconter mes propres histoires. Et j'ai du mal à collaborer, en fait. C'est vrai que j'ai du mal à partager les choses avec quelqu'un d'autre. De m'adapter à une idée. C'est vrai que j'ai souvent une vision assez précise des trucs que je veux faire. Et donc, je peux pas... Je ne recherche pas tellement les collaborations.
Ouais, vous préférez contrôler l'intégralité de votre œuvre.
Bah oui, c'est vrai que même, par exemple, pour l'Arabe du futur, c'est un livre dont je fais le dessin, le scénario, la couleur, la maquette, je vais chez l'imprimeur, etc. Donc c'est un truc de maniaque, en fait. Voilà. Je suis un peu maniaque. Et quand on travaille avec un scénariste ou chez un gros éditeur qui appartient à un grand groupe, on se retrouve un petit peu dans la position d'un mec dans une écurie. Un peu. Il y a 30 autres types qui font des BD en même temps. C'est jamais sur le type qui s'appelle Satouf qu'on va miser, parce qu'il a un nom un peu ridicule. Et je me suis toujours senti assez seul chez les gros éditeurs. Donc c'est pour ça que j'ai fait L'Arabe du futur chez Alary Édition, qui est une petite maison d'édition indépendante qui n'appartient à personne, enfin à part à son éditeur et un petit peu à moi. Et voilà, c'était important pour moi pour contrôler l'ensemble de mon livre, de mes livres.
En 2002, vous vous installez dans un atelier à Paris avec des auteurs qui sont connus dans le milieu de la bande dessinée, Christophe Blain, Johan Sfar, Mathieu Sapin, mais qui n'ont pas encore la renommée qu'ils ont aujourd'hui de rouleau compresseur, on va dire.
C'est pas vrai, ils étaient quand même connus déjà à l'époque.
Tout à fait.
Christophe Blain avait déjà eu le prix à Angoulême, il avait pour Isaac le Pirate le premier volume, et Johan Sfar avait sorti Le Chat du Rabbin. C'était des mecs qui avaient vraiment une vraie carrière déjà. Et moi je débutais, et c'est vrai que c'est grâce à vos dessinateurs de bande dessinée, Émile Bravo. Je vous invite d'ailleurs à regarder son nouvel album qui vient de sortir, qui est super.
Il va venir à la librairie d'ailleurs, en conférence.
Eh bien, je vous conseille, c'est mon maître Jedi, en fait. Émile Bravo, c'est à lui que je dois à peu près tout, parce que c'est lui qui a regardé mes premières pages de bande dessinée en me disant « raconte tes histoires, continue à proposer tes scénarios, abandonne pas ». Et c'est lui qui, me voyant dans la loose totale des refus successifs, m'a présenté à Sfar, Blain et Sapin en me disant « vas-y, propose-leur de te mettre en atelier avec eux, etc. » Et donc, ils m'ont accepté un petit peu comme... j'étais un peu comme dans les documentaires animaliers. Vous voyez, il y a la bande des singes qui mangent des bananes. Et moi, j'étais le singe Oméga qui tournait autour. Et ils m'ont accepté dans leur groupe quand même. Et donc, voilà, je me suis retrouvé en atelier avec eux. Et je pensais que j'allais profiter de leur renommée pour passer mes projets. En fait, pas du tout. J'ai continué à avoir des lettres de refus permanentes quand je proposais mes projets. Et en fait, tout a commencé le jour où j'ai eu un appel de chez Dargo, d'un éditeur qui était en pré-retraite, qui s'appelle Guy Vidal, et qui était l'ancien rédacteur en chef de Pilote, et qui est tombé sur un de mes scénarios par hasard sur son bureau. Et ça, il l'a lu, ça l'a fait marrer. Et il m'a demandé de venir le voir, et il m'a signé mon premier contrat d'auteur complet. Voilà, et je raconte souvent que le jour où j'ai signé ce premier contrat d'auteur complet, c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Je me rappelle chaque minute de ce jour. J'avais acheté une veste chez H&M qui était noire, avec des petites coutures bleues d'extrêmement mauvais goût, mais je pensais que ça me donnait un air un peu sérieux et tout. Et donc j'étais allé pour signer mon contrat, et si je me rappelle, Dargo était dans une zone, un quartier vraiment pas terrible du nord de Paris, où il y avait énormément c'était très mal fréquenté. En fait, il y avait des mecs louches un peu partout. Et en fait, quand je suis sorti de chez Dargaud, j'étais tellement content que je suis passé en courant. Je courais comme ça, comme dans les films. Et tous les mecs louches me regardaient genre, vas-y, là, c'est quoi ça? Pourquoi il passe là? Et c'était vraiment le plus beau jour de ma vie. Ça signifiait que je commençais. Voilà, j'étais...
On suppose que dans cet atelier, il y avait une énergie assez folle. Hein. Vous motiviez les uns les autres, peut-être au niveau du dessin. Vous êtes à ce moment-là, justement, un jeune auteur bande dessinée. Vous avez peut-être envie de rattraper la notoriété de ces trois auteurs.
Alors oui, mais alors ça se passait pas exactement comme ça, parce qu'en fait, ils avaient chacun déjà une carrière déjà un peu en route. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, Johannes Fahr avait beaucoup, il y avait beaucoup de dessinateurs qui dessinaient comme lui, et Christophe aussi. Christophe Blin. Il y avait plein de sous-Blin et plein de sous-Sfar. Alors, il y avait des BD un peu historiques avec des mecs avec des petits traits. Il y avait plein de gens qui étaient dans ce style de dessin. Mathieu Sapin, lui, faisait des bandes dessinées un peu surréalistes avec Super Murgeman, etc. Donc, Blin faisait de l'historique et Sfar faisait un peu de l'heroic fantasy avec Donjon, etc. Et donc, c'est vrai que moi, je voulais pas être un sous-eux. C'était très important. Parce que je les entendais parler à longueur de journée des sous-eux. Et ils en disaient énormément de mal tout le temps. Et donc, je me suis dit, bon, je vais faire un truc dans un autre style de dessin. Déjà, mon style n'est pas comme le leur. Je ne fais pas des petits traits. J'adore la ligne claire et les dessins un petit peu. Et je vais parler d'une chose dont ils ne parlent pas dans aucun de leurs BD. C'est du monde réel, en fait, de l'époque actuelle. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait Les Pauvres Aventures de Jérémy, Manuel Dupuceau, Pascal Bruital. Je me suis lancé dans ce créneau, qui a aussi été, ça faisait partie aussi de toute façon de mes centres d'intérêt principaux, en fait. C'est vrai que je voulais pas faire d'heroic fantasy, je voulais pas faire de BD historique. Donc voilà, j'ai trouvé ma place comme ça et j'étais content de pas être un sous-eux.
Et cette installation, c'est vraiment un moment clé de votre carrière parce que en 3 ans, vous sortez justement 5 ouvrages, Les Aventures de Jérémy, le Manuel du Puceau. Et Ma circoncision, qui est, on pourrait dire, votre première œuvre autobiographique. Et en fait, on remarque directement, voilà, on est passé de petit verglas à un style très détaillé, que vous, comme vous avez dit, à votre style pour lequel on vous connaît aujourd'hui. C'était votre volonté, vraiment, c'était de présenter votre travail, votre identité n'était peut-être pas celle du dessin de Petit Verglas, mais celle qu'on voit dans le Manuel du Puceau, par exemple, une ligne claire.
Oui, bien sûr. Oui, voilà, c'est vrai que en fait, les styles de dessin un peu personnels, c'est des choses très compliquées à faire passer auprès d'un éditeur, parce qu'il se dit que le lecteur va pas forcément suivre. Alors, je pense que les éditeurs se trompent très souvent. Mais c'est vrai que c'était un vrai challenge pour un éditeur d'accepter un truc comme ça. Attendez. Vas-y. Voilà, vous voyez, c'était des petits bonhommes comme ça. Hein? En effet, j'ai pas eu beaucoup de succès avec ces livres, Manuel du Puceau ni Ma circoncision. Mais comme les éditeurs, en fait, acceptaient mes projets à cette époque-là, les acceptaient plus qu'avant, je travaillais beaucoup. C'est vrai que je démarchais beaucoup les idées. J'essayais de faire plein de projets différents, donc j'ai fait pas mal d'albums en quelques années. Et Manuel du Puceau et La Circoncision, ils ont eu un problème avec une commission de censure qui est la commission des publications destinées à la jeunesse. Et parce qu'il y avait une association traditionnaliste qui avait porté plainte parce qu'il y avait des gros mots dedans. Et donc je m'étais retrouvé à la police. Oui, il y avait vraiment il m'avait attaqué en justice, en fait. Et en fait, le seul magazine, le seul journal qui s'était intéressé à ce cas, c'était Charlie Hebdo, à cette époque-là. Ce cas Vanna avait eu beaucoup de problèmes avec cette commission, et donc il surveillait tout ce qu'elle faisait. Et donc c'est le seul journal qui... J'avais rencontré un journaliste à l'époque qui s'appelait Stéphane Bou, et qui m'a dit « Mais viens au journal, tu vas voir, on va te laisser faire des pages, on va te soutenir contre cette commission ». Et j'étais allé à la rédaction de Charlie, où j'avais rencontré tous les mecs que j'admirais, Cabu, Charb, Luz, Honoré, Tignous et Cavana, qui étaient ultra remontés contre la commission de censure.
C'est des enculés. Ils m'ont fait chier toute ma vie. Faut les détruire.
Il était super remonté. Et donc, c'est à cette occasion qu'ils m'ont dit « Fais une page où raconte ton entrevue chez les flics. » Donc, j'ai été interrogé par une policière qui m'a posé plein de questions sur pourquoi il y avait des gros mots dans mon livre, etc. Et je lui ai répondu. Après, j'en ai fait une page de bande dessinée dans Charlie. Et c'est à ce moment-là que Cabu et Philippe Val m'ont proposé de rejoindre Charlie Hebdo. Mais sauf que j'étais nul en dessin politique. En fait, je ne savais pas du tout faire des dessins un peu critiques qui font une synthèse entre deux événements. Vous savez, c'est très difficile de faire des dessins politiques. Mais j'avais quand même bien envie de travailler à Charlie parce que c'était quelque chose de régulier et puis ça me permettait de voir Cabu de temps en temps. J'adorais Cabu. Et je leur ai proposé La vie secrète des jeunes qui a été publiée dans Charlie pendant 8 ans. Et c'était des petites pages de BD qui racontaient des scénettes que j'avais vues dans la rue. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 8 ans dans Charlie, mais j'envoyais ma page par mail, en fait. J'allais jamais en conférence de rédaction. Parce qu'à chaque fois que j'y allais, en fait, ils s'enguirlandaient tout le temps entre eux, et ça me stressait un peu. Enfin, ils étaient jamais d'accord, il y avait toujours des conflits énormes dans la rédaction, et ils s'insultaient, se traitaient de social traître, je sais pas quoi. Je savais pas trop ce que ça voulait dire, ils étaient tous... Parce qu'en fait, quand ils s'engueulaient, j'étais d'accord avec tout le monde. C'est ça qui était super compliqué. C'est-à-dire, quand il y en a un qui disait un truc, je disais, mais oui, mais il a raison, lui. Puis après, il y avait un autre qui disait, non, tu dis pas, c'est parce que c'est comme ça. Je dis, bah oui, lui aussi, il a raison. Et donc, j'évitais d'y aller parce que j'avais pas d'avis sur toutes ces questions. Et j'ai arrêté de faire Charlie au bout de 8 ans. C'était quelques mois avant les attentats parce que j'étais déprimé, en fait, de faire des histoires de La vie secrète des jeunes. C'était hyper déprimant comme BD à faire pour ceux qui la connaissent. À la fin, j'en pouvais plus. Donc, j'ai arrêté.
Donc effectivement, vous travaillez dans la presse, Charlie Hebdo, maintenant à l'Obs avec les Cahiers d'Esther. On sent en vous une volonté de croquer la jeunesse dans La vie secrète des jeunes. Effectivement, c'est des scénettes du quotidien, parfois humoristiques, parfois un peu déprimantes. Et dans les Cahiers d'Esther, donc, on suit Esther année après année et vous croquez maintenant cette jeune fille. Vous croquez le quotidien de cette jeune fille. Qu'est-ce qui vous intéresse, en fait, de figer le réel et celui, notamment, de la jeunesse ?
Eh bien, c'est vrai qu'on me pose souvent cette question et j'ai pas de réponse absolument définitive. Je dirais que j'aime bien regarder les choses à travers les regards des enfants. Et aussi, comme j'ai des souvenirs très clairs de ma propre enfance et que j'ai l'impression qu'elle est quand même passée très, très vite... J'aime bien la retrouver chez les autres, un petit peu, voir comment les gens vivent. Voilà, c'est vrai que dans le cadre d'Esther, j'avais arrêté Charlie Hebdo parce que j'en avais marre de faire aussi une page toutes les semaines, c'était hyper fatigant. Et pile à ce moment-là, je revois cette petite fille qui était la fille d'un couple d'amis à moi, mais qui avait beaucoup grandi, je ne l'avais pas vue depuis longtemps, et qui s'est mise à me parler de son quotidien, des chanteurs qu'elle adore, des garçons qui sont cons, etc. Et je me suis dit, ça ferait des super BD... Donc j'ai commencé à réfléchir à ce projet. Mais je me suis dit, bon, je le ferai plus tard. Je vais y réfléchir. Et c'est pile à ce moment-là qu'en effet, l'Obs, par son directeur Mathieu Croissando, m'avait contacté en me demandant, vous voulez pas faire une page toutes les semaines ? Et en fait, je me suis remis à faire une page toutes les semaines alors que j'avais arrêté Charlie, que j'étais content de ne pas faire de page toutes les semaines. Et la page d'Esther est encore plus dure à faire que les pages de La vie secrète des jeunes. Mais je ne peux pas m'en empêcher. En fait, c'est vrai que c'est ma passion et je dois faire ça.
Vous travaillez aussi avec Fluide Glacial, pour lequel vous faites Pascal Brutal, une bande dessinée qui se passe dans un futur proche, dans une France ultra-libérale, où Alain Madelin est au pouvoir. On suit donc Pascal Brutal, qui est une sorte de... d'homme super viril, une sorte de Conan le barbare futuriste, avec sa gourmette, ses baskets torsion, sa moto, la drogue, son amour pour les femmes, pour les hommes parfois aussi, sa sensibilité aussi, surtout sa virilité. Comment avez-vous créé ce personnage ?
Bah, Pascal Brutal, en effet, c'était un de mes premiers, de mes premières BD aussi. À l'époque, j'avais fait le premier volume des Pauvres Aventures de Jérémy, qui racontait l'histoire d'un loser un peu minable. Il y avait Manuel Dupuceau qui racontait l'histoire d'un jeune un peu minable. Et je voulais pas être enfermé dans les histoires de mecs un peu minables. Et donc, je me suis dit que j'allais créer un mec tout puissant, en fait, ultra balèze et tout. Et je me suis souvenu de tous les mecs, désagréables que j'ai pu rencontrer dans ma vie. C'était toujours des espèces de grands types, un peu musclés, etc., qui, avec des visages horribles, mais que toutes les filles trouvaient merveilleusement beaux. Mais je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi tout le monde le trouve beau? Il est horrible. Donc j'ai commencé à réfléchir à un personnage comme ça. Et puis un jour, j'étais dans l'atelier de la rue d'Avron avec Sfar, Blin et Sapin. Et un jour, j'avais une toute petite pièce qui était à l'écart. Et un jour, je vois ma porte qui s'ouvre comme ça. Personne n'avait frappé. Et un mec rentre. Et c'était un libraire de BD. Mais que je ne connaissais pas, je n'avais jamais rencontré. Enfin, de loin, quoi. Un mec qui avait des librairies à Paris et tout. Et à l'époque, j'étais vraiment pas... Mes BD n'étaient pas très connues, quoi. C'était pas... Même auprès des libraires. Et il rentre dans ma pièce, comme ça. Il me regarde. Et alors, il était assez balèze. Avec des gros bras, une petite tête et des lunettes. C'est un peu aviateur, un peu à la Tom Cruise, là, comme ça. Il rentre, et puis il s'appuie sur mon bureau, comme ça, il se fait. Et puis il me regarde, puis il fait « Alors, Toutouf, on fait toujours ces petites BD ?» Alors là, je dis « Ah ben bah, ouais !» Puis il fait « Ah bah c'est bien !» Il regarde un peu comme s'il était chez lui, puis il se casse. Et en fait, je me suis dit « Bah voilà !» J'ai mon personnage, c'est lui. Et alors, pour vous raconter, en fait, ce qui est très marrant, c'est que j'ai gardé le secret de ce mec. Donc, j'ai fait après Pascal Brutal, il y a eu 3 albums, etc. Et en fait, ce mec, je lui ai jamais dit que c'était... Et en fait, ce mec est devenu le plus gros fan de Pascal Brutal que j'ai jamais vu. Et alors, il venait toujours me voir dans les festivals, il disait « Oh, excuse-moi, est-ce que ça t'embête si je me fais un petit t-shirt avec Pascal Brutal dessus ?» Alors j'ai dit, ben non, mais pas de problème, vas-y et tout. Ah, oh, super, oh, j'adore, ça me fait kiffer, j'adore. Et alors il avait une copine, mais il était exactement comme Pascal Brutal en fait. Et un jour, il m'a dit un truc méga désagréable. Je crois que c'était parce que c'est le jour où Pascal Brutal a eu le prix d'Angoulême, parce qu'il aimait Pascal Brutal. Mais Pascal Brutal a eu le prix du meilleur album à Angoulême et ça n'a pas plu à tout le monde parce qu'il y avait des mecs qui étaient censés avoir plus ou moins le prix plus que moi. Et donc lui, il pensait qu'en effet, j'aurais pas dû l'avoir. Et il me dit, il vient me voir, il me dit, oh, tu sais, moi je te tiens un truc, tu vois, j'adore Pascal Brutal, tu vois. Mais putain, c'est pas toi qui aurais dû l'avoir le prix, tu vois. Je pense que c'est machin et tout. Et là, je le regarde et je fais, ouais, ben, je vais te dire quelque chose, c'est toi l'aspiration de Pascal Brutal. Tu te rappelles quand t'es venu dans mon bureau et tout, que tu t'es pas assis sur ma table? Et là, son visage est devenu tout blanc. Je vous assure que c'est vrai, il est devenu tout blanc, il a fait comme ça. Il était comme ça, il a fait, non, putain, non. Non, putain! Et il est parti. Et alors, je crois que c'est pas lié à cette anecdote, mais il a vendu ses librairies. Et j'aime penser que c'est lié, en fait. Voilà, vous voyez, ça fait partie d'un vaste système.
Vous inspirez encore du réel.
Voilà.
Donc, vous gagnez le Fauve d'Or d'Angoulême, la plus grande distinction qu'on puisse avoir en bande dessinée, le Festival international de bande dessinée d'Angoulême. Pour cette série, que ressentez-vous à ce moment-là? Parce que voilà, c'est la notoriété. On imagine que votre vie change.
Ben non, pas tellement en fait, parce que comme je rêvais, les auteurs de BD, ils vous diront que non, mais ils rêvent tous quand même d'avoir un prix à Angoulême un jour. Et donc je rêvais d'avoir le prix. Donc en effet, j'ai eu le prix du meilleur album. En plus, c'était décerné par dans le jury, il y avait des auteurs que j'adorais. Il y avait Blutch et Pierre Christin. Et j'étais hyper content d'avoir ce prix parce que quand vous avez un prix Angoulême, c'est censé un peu quand même booster les ventes. Vous avez une attention médiatique. Il y a tout un truc. Et quand j'ai eu le prix, en fait. Personne ne s'y attendait, surtout pas moi, parce que je ne pensais pas que je pourrais avoir un prix avec Pascal Brutal, parce qu'il y avait des œuvres censées être mieux dans la sélection. Moi, je l'ai trouvé nul, hein, mais de toute façon, je pensais que... Bref, et j'ai eu le prix, et l'éditeur même de Pascal Brutal n'était pas du tout prêt pour avoir un prix non plus. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas de stock pour la BD, elle n'était pas assez imprimée, en fait. Et donc, on a eu le prix. L'éditeur et toute l'équipe est partie en vacances. Surtout, c'est parti en vacances, le lendemain. La BD a été indisponible pendant 4 mois. Et donc, ça n'a jamais profité à la série d'aucune sorte. Donc, parce qu'il fallait 4 mois pour la réimprimer, parce que c'était un vaste truc industriel. Il fallait qu'il y ait 20 BD d'éditeurs en même temps pour que ce soit rentable. Ouais, c'est à ce moment-là que je me suis mis à détester le système des grands éditeurs. Vous êtes obligé de il y a rien n'est fait pour le truc. Pour vous. Enfin, je sais pas, il y avait un truc que je me suis senti... J'ai détesté cette expérience. Et quand ils ont réussi à réimprimer cet album, ils avaient imprimé un bandeau. Et sur le bandeau, c'était marqué Fauve d'or, Angoulême 2000, je sais pas quoi.
2009.
Et donc là, il y avait des libraires qui ont pris le bandeau et qui l'ont mis sur l'album qui pensait qu'il devait avoir le prix plutôt que le mien. En mettant notre prix. Et donc, humiliation extrême. C'était horrible. Un des pires moments de ma vie.
Vous vous lancez à ce moment-là dans le cinéma. Vous êtes réalisateur, du coup. Et vous faites un film dans la thématique Les amours d'ado.
Oui, c'est Les beaux gosses.
Les beaux gosses. Pour lequel vous recevez 3 Césars.
Non, un seul.
Un seul ?
Vous me confondez avec Johannes Farr. Ah. Ça m'arrive assez
souvent. Celui du meilleur premier film. Vous avez 32 ans. Vous avez...
Oui, c'est ça.
Vous recevez des succès donc coup sur coup dans le 9e art, dans le 7e art. Comment vous avez vécu ce nouveau succès on peut vous dire que vous étiez une sorte d'auteur bankable.
Les Beaux Gosses, en effet, a été un film qui a été fait avec très peu de moyens. Très peu de gens voulaient miser de l'argent dessus, parce que quand vous produisez un film, c'est jamais avec l'argent du producteur que le film se fait. C'est un producteur va voir des banquiers, etc., et leur vend un projet en leur disant ça va marcher, etc., prêtez-nous de l'argent. Voilà. Et ma productrice, Anne-Dominique Toussaint, adorait mes BD et voulait faire un film dans cette ambiance-là. Donc je lui ai dit que je serais intéressé par le réaliser sans... J'avais pas peur. Enfin, c'était un peu comme... j'ai rien à perdre, en fait. Je lui ai demandé ça directement. Et donc elle a accepté, ça lui a pas du tout fait peur. Et on s'est lancé dans ce projet. Donc personne ne voulait financer ce film. On avait un tout petit budget. Donc c'était qu'avec des ados amateurs, des comédiens... Il y avait très peu de vedettes. Alors j'avais quand même une ou deux vedettes. J'avais Emmanuel Devos qui faisait un petit rôle que j'adorais. Et Irène Jacob que j'adorais parce que j'adore les films de Kieslowski. Et le film est sorti. Donc c'est le premier film de Vincent Lacoste, l'acteur qui maintenant est lui devenu méga bankable. Et on a fait ce film. Ça a été un super succès. On a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Et c'était génial. Et voilà, et ensuite j'ai fait un deuxième film. Et comme le premier avait super bien marché, j'ai eu beaucoup plus de budget pour faire le deuxième. Là, tous les banquiers étaient super chauds et ça me faisait même peur parce qu'ils acceptaient toutes mes idées. Et je me disais, est-ce qu'ils ont vraiment lu le projet? Est-ce qu'ils savent vraiment de quoi ça va parler? Le film s'appelait Jackie au royaume des filles. Ça se passait dans une dimension parallèle où les femmes ont le pouvoir, où disons, les femmes ont les attributs de la virilité. Qu'on a dans notre monde, elles l'ont dans leur monde parallèle. Et les hommes sont des hommes au foyer, complètement soumis, qui portent de grandes voileries pour cacher leur corps et tout. J'avais inventé une religion, etc. C'était une sorte de film de science-fiction, une dystopie utopique, et qui est sorti, et qui n'a eu aucun succès. Voilà, ça a été un four intersidéral. Vraiment, critique nulle. Enfin, j'ai eu quelques critiques sympas, il y a des gens qui ont bien aimé, mais... il est sorti pile au moment de la manif pour tous. En plus, c'était vraiment pas de bol. Parce que je l'avais écrit, mais ça faisait 4 ans que je bossais dessus. Et c'est sorti pile au moment où... Enfin bon, c'était horrible. Et donc, c'est suite à cet échec que mon téléphone n'a plus du tout sonné. Je m'étais éloigné du monde de la BD parce que j'avais été déprimé par l'histoire de Pascal Bruytal et du prix. Et je me suis retrouvé un peu comme... J'ai eu une traversée du désert comme le général de Gaulle. J'étais un peu seul, mon téléphone ne sonnant plus, je comptais mes amis, je n'en avais plus beaucoup. Mais il y en avait un qui continuait à m'appeler, c'était Guillaume Allary, le fondateur de Allary Éditions. Et il me dit, moi j'ai envie de monter ma maison d'édition, est-ce que ça te dirait, si je le faisais, est-ce que tu me suivrais et tout. Et donc je lui ai dit, à fond, déjà j'étais content qu'il continue à m'appeler. Donc je lui ai dit, oui, bien sûr. Mais alors là, j'ai plusieurs conditions, je veux que tu restes indépendant et que tu n'appartiennes pas à un grand groupe. Donc on a mis en place tout un truc pour que ça se passe comme ça pour toujours. Et je lui ai dit aussi, je veux faire le livre que je veux, de la forme que je veux, etc. Et je veux être le seul auteur de BD de ta maison d'édition. Et lui, il ne voulait pas éditer de bande dessinée. Il voulait éditer des romans, des essais, etc. Et donc, il était d'accord. On s'est mis d'accord. Et donc, je suis le seul auteur de BD chez Alary. Et donc, j'ai fait le premier volume de l'Arabe du Futur très vite. Parce que je l'avais écrit, ça faisait des années que je l'écrivais. Et je l'ai dessiné assez rapidement. Vraiment, j'étais méga stressé. Je voulais absolument revenir. J'avais peur, en fait, comme on m'avait retiré la possibilité de faire des films, j'avais peur qu'on me retire aussi la possibilité de faire des BD. Que voilà, je voulais revenir dans le monde des auteurs de BD, quoi. Et donc j'ai fait cet album, le premier volume, qui a été un succès tout de suite. En fait, ça a marché tout de suite. Et j'étais hyper content. Voilà. Le jour où mon éditeur m'a appelé pour me dire, oh, dis donc, c'est super bien accueilli. La presse adore, les lecteurs, ils les adorent. Je réimprime à 100 000 exemplaires. En fait, je suis sorti de chez moi. Un jour, c'est comme si j'avais laissé un sac hyper lourd chez moi, mais que je sortais, que j'étais incroyablement allégé. Je ne sais pas comment dire. J'étais hyper... Un autre meilleur jour de ma vie. Voilà.
Donc, vous racontez votre vie. Ce n'est pas un acte anodin. C'est quelque chose d'assez pudique. Et à quel moment vous dites « Mon histoire, ma vie est extraordinaire et peut intéresser le public ?»
Eh bien, en fait, je me suis jamais dit vraiment ça comme ça, parce que personnellement, j'aime pas trop les histoires autobiographiques, en général, si on peut parler en généralité. Je trouve déjà que les auteurs de BD se dessinent souvent beaucoup trop beaux, beaucoup plus beaux qu'ils ne sont en réalité, en fait. Ça me gêne tout le temps quand je lis une de leurs histoires. Et ensuite, je trouve que c'est souvent des préoccupations pas terriblement excitantes. Et donc, je me suis dit, l'Arabe du futur, je voulais pas tomber dans ces deux travers-là. Et donc, je me suis dit que j'allais déjà raconter cette BD comme étant un récit de voyage avant d'être une BD introspective. Et ensuite, je me suis souvenu que quand j'étais enfant, j'étais ultra beau. Et ce qui fait que ça a réglé tout mon problème d'histoire. Parce que je pouvais me dessiner somptueusement somptueux, avec des vastes tignasses blondes. J'étais vraiment une petite Brigitte Bardot. Et ça m'a tout débloqué, voilà.
Alors, on a vu dans vos œuvres précédentes que vous avez égrené pas mal d'indices, déjà sur votre vie. Pascal Brutal, comme vous, est breton. Et aussi viril que Conan le Barbare, votre idole. Vous aimez raconter le réel, comme dans La vie secrète des jeunes. Vous racontez votre vie. Vous racontez aussi votre circoncision dans le livre Ma circoncision. Votre passion pour les bananes, notamment dans le film Les beaux gosses. Mais un sujet majeur manquait encore à votre autobiographie. Dans le tome 4, ce sujet est enfin là. C'est l'adolescence et tout ce qu'elle peut évoquer. Et est-ce que vous attendiez justement avec impatience de raconter le début de l'adolescence ?
Ben, comme je le disais tout à l'heure, l'Arabe du futur, c'est vraiment une histoire en entier, qui n'est pas terminée. Donc je suis surtout impatient d'avancer dans l'histoire, voilà. Mais je n'étais pas spécialement impatient de raconter ce qu'il y avait dans ce volume 4, parce que j'ai tourné autour du sujet de ce livre pendant tellement longtemps, et en fait j'avoue qu'il était assez dur à faire, il a été assez compliqué, et j'étais pas très pressé, non. Mais c'est pour ça en fait que je crois qu'il est aussi gros, c'est qu'à un moment j'ai eu la tentation de le diviser en deux pour encore reculer le moment où j'allais raconter ce qui se passe à la fin de ce volume. Et je me suis dit, non, tu ne vas pas encore reculer pour pas assumer ou raconter ou affronter cette histoire. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'il est plus long. Je crois que c'est l'explication. Mais ce n'était pas tellement l'adolescence. Dans l'adolescence, j'étais pas... Parler de ma personne n'est pas le truc le plus central. C'était le personnage du père, la famille, les rapports avec les voyages, l'identité, comment se transmettent les valeurs morales, etc. C'était ça qui m'intéressait. Mon personnage, il m'intéresse pas tant que ça. C'est un réceptacle pour le lecteur. Parce le lecteur commence l'histoire en étant dans le réceptacle de mon personnage, c'est-à-dire un petit être somptueux. Et peu à peu, son statut se dégrade et j'emmène le lecteur. Et maintenant, je suis extrêmement moche. Et voilà, je l'emmène avec. J'espère que je ne vais pas perdre tous mes lecteurs au moment où j'ai perdu ma beauté, mais c'était important de montrer aussi comment le monde change quand on change nous-mêmes. Voilà. Merci pour les gens qui ont fait « Oh, ça me touche ».
Pour dessiner, j'aimerais savoir quel outil vous utilisez. La plume,
vous êtes vraiment un gros fan de BD, hein, ça ne m'étonne pas. Vous voulez faire le moindre petit truc technique. Eh bien alors, pour dessiner, est-ce que je vous dis la vérité ou est-ce que je ne vous dis pas la vérité? Non, en fait, c'est très classique. En fait, vraiment, je fais tout au crayon à papier, déjà. Mm-hmm. Et ensuite, je fais une partie à l'encre avec une plume. Et de l'encre de Chine. Alors, je veux une marque de plume particulière, une marque d'encre de Chine particulière. Et après, je retouche à l'ordinateur, c'est-à-dire avec une tablette graphique. Vous voyez, les Cintiq, pour ceux qui connaissent, c'est des grands espèces de iPad géants. Et voilà, je fais tout là-dessus. Couleur et parfois ancrage. Voilà. Très traditionnel. Tout seul, pas d'assistant. Pour ma correctrice orthographique, il y a énormément de boulot.
Les couleurs aussi ?
Je fais les couleurs, je fais la maquette, je la choisis. Alors, ce n'est pas moi qui la fais techniquement, ma collaboratrice Charline Bello qui le fait. Mais on le fait de manière très... Je surveille chaque aspect du livre, quoi.
Vous avez parlé des auteurs qui vous ont inspiré, que vous admirez, Blutch notamment. Quels sont vos maîtres de dessin et ceux qui vous ont fait rêver, ceux qui vous ont permis de progresser? On pense notamment dans l'Arabe du futur à Leïla, dans le tome 2, qui vous apprend une technique qui révolutionne un peu votre façon de dessiner. Est-ce qu'il y a des personnes que vous admirez et d'autres qui vous ont fait progresser?
Oui, non, c'est vrai que le dessin, de toute façon, je dessine depuis toujours, donc c'était un moyen quand j'étais un petit enfant d'intéresser les adultes, ma famille. J'aimais bien lire dans leurs yeux que j'étais exceptionnel, etc. Et après, quand j'étais à l'école, ça me permettait d'impressionner mes copains parce que j'étais pas forcément capable de les impressionner au foot ou en étant j'étais très timide aussi, donc c'était une manière d'attirer l'attention. Après, quand j'étais ado, le dessin était un moyen d'évasion. Donc, je dessinais des scènes fantastiques, des paysages extraterrestres, etc., pour échapper au quotidien. Et ensuite, le dessin m'a permis de gagner ma vie au quotidien. Donc, c'était quelque chose de très important. Donc, les dessinateurs ont été, en effet, essentiels dans ma vie comme figure pour échapper à ma famille, en fait, aussi. Et c'est vrai que, par exemple, Hergé... Quand j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un qui dessinait Tintin, parce que je pensais que c'était comme le soleil, en fait, que ça existait de toute éternité, quand j'ai découvert qu'il y avait quelqu'un qui dessinait, qui écrivait, ça a changé ma vie aussi. J'ai voulu faire ça. Voilà, j'avais trouvé ce que je voulais faire.
Aujourd'hui, comme un grand sportif, vous avez tout gagné, César, Fauve d'Or. Qu'est-ce qui peut encore vous motiver?
J'adore, je suis passionné par faire des bandes dessinées. J'ai fait des bandes dessinées pendant 15-16 ans sans avoir beaucoup de lecteurs, mais je continue à en faire, j'ai jamais abandonné. Donc aujourd'hui que j'ai des lecteurs, je suis hyper content de les avoir et j'ai envie de continuer encore à faire des livres. Non, c'est vraiment ça le truc central, c'est pas tant les récompenses ou les choses comme ça. Parce qu'en plus, les récompenses c'est bien, mais vous satisferez jamais tout le monde en fait. Vous voyez, moi je l'ai expérimenté. Mais par contre, j'adore. Moi, ce que j'adore, c'est quand des lecteurs qui ne lisent pas de bande dessinée lisent mes livres. Quand il y a des petites mamies qui viennent me voir en me disant je ne lis pas de BD, j'ai horreur de ça, mais j'adore l'Arabe du futur. ça, j'adore. Voilà, par exemple, vous voyez, c'est un.
D'ailleurs,
comme si j'emmenais la BD dans des lieux reculés. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Guillaume. Merci. Vous.